Dans l'actualité des idées aujourd'hui, émission Grand Témoin avec le cinéaste Raoul Peck à l'occasion de la diffusion de I Am Not Your Negro ce soir sur Arte, le 10 dans les salles de ciné. Il est notre invité Raoul Peck depuis midi jusqu'à 13h30. Réalisateur haïtien vivant entre Port-au-Prince, Paris et Berlin, peut-être parfois aussi un pied aux États-Unis, vous signez un film fort qui revient sur la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, de l'Amérique de James Baldwin à l'Occident d'aujourd'hui, de la pensée de l'écrivain afro-américain à votre regard, à vous, sur notre époque agitée, confrontation d'images et d'imaginaires dans I Am Not Your Negro, un titre choc que vous avez fait vôtre d'ailleurs, Raoul Peck, ne pas laisser l'autre vous définir, décider de ce qui fait votre identité, c'est ce que vous nous disiez dans la première partie de l'émission. Et en effet, votre film montre bien déjà à quel point dans nos sociétés, cette question de l'identité est une question politique aujourd'hui encore.
Oui, et surtout formulé ainsi, j'ai toujours eu du mal avec ce qualificatif parce que j'estime que c'est quelque chose de très personnel, au-delà d'être bien sûr citoyen dans un pays quelconque. Et moi, comme j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai toujours essayé d'être un vrai citoyen, quel que soit là où je vivais. Mon identité, c'est ma chose personnelle et elle est tout le temps en mouvement. Elle n'est pas définissable par qui que ce soit que par moi. Donc c'est vrai que toute cette discussion autour de l'identité, l'identité d'être français, le communautarisme et tout ça, c'est un grand panier dans lequel on met toutes sortes de problèmes que j'estime bien entendu réels, mais en même temps c'est une manière de faire de l'amalgame qui n'a pas lieu d'être.
Et pourquoi cette question d'hier à aujourd'hui finalement a toujours été instrumentalisée, voire exacerbée? Au cœur de quoi est-elle?
Bah écoutez, c'est depuis que les hommes et les femmes ont commencé à vivre en société, je pense qu'il y a toujours eu cette tendance parfois à désigner un ennemi lorsqu'on était face à des problèmes fondamentaux, difficiles, compliqués à résoudre. C'est le résultat de guerres, c'est le résultat de parfois de conquêtes. On peut citer la colonie, on peut citer l'esclavage et on peut citer l'Holocauste par exemple aussi. Ça a été quoi? Ça a été de désigner une race, même si le concept de race est totalement absurde, d'autant que là, c'est autour d'une religion, quelque part. On a décidé que ces êtres humains étaient des insectes et on a décidé de les exterminer. Donc on voit bien que ça ne peut pas se résoudre à une couleur de peau, mais que ça va beaucoup plus loin que ça et que c'est comment on regarde l'autre. C'est la faculté d'empathie possible ou impossible.
Alors qu'est-ce qui est au cœur des rapports de domination et aussi de domination économique? Parce que ce n'est pas un problème de peau, nous dit James Baldwin, c'est un problème de classe. Pour lui, ce problème noir a été inventé. Le monde n'est pas blanc, le blanc est une métaphore, dit-il, une métaphore du pouvoir. C'est ce grand malentendu américain, mais pas seulement occidental, qui a permis, d'après vous, à des personnalités aujourd'hui comme Donald Trump ou Marine Le Pen d'émerger, voire de gagner.
Absolument, parce que à travers cet amalgame, c'est le pouvoir qui gagne, puisqu'il reste en place. Les structures de pouvoir restent les mêmes et restent intouchables. Quand on comprend qu'aux États-Unis, une bonne partie des électeurs de Trump ont probablement voté Obama, il y a les deux dernières élections, et c'est pareil ici aussi. Quand j'entends que d'anciens communistes ont voté Le Pen, ou d'anciens socialistes aujourd'hui votent Le Pen, c'est cet amalgame qui fait que en effet, les gens sont déroutés. Ils sont déroutés, ils ne croient plus dans ce discours politique dominant, aussi bien gauche que droite. Et même si il y a des personnages dans la gauche qui sont des gens que je respecte, mais ils sont inaudibles, puisqu'il n'y a pas de réelle discussion. On se bat à coups de clichés, on se bat à coups de petites phrases, à coups d'incidents. De parcours, mais la vraie question en fait fondamentale pour moi aujourd'hui dans ce monde occidental qui est en plein changement, c'est comment on va avec les armes de la démocratie aujourd'hui continuer à résoudre les problèmes qui arrivent à toute vitesse vers nous et vers ces continents.
Vous craignez qu'elles ne suffisent pas, ces armes de la démocratie?
Je pense qu'elles sont grandement entamées et qu'elles ne répondent pas à la chose. Quand c'est ce même système démocratique qui nous donne Poutine, qui nous donne Berlusconi, et qui peut nous donner Marine Le Pen, je pense que nous avons de sérieux problèmes.
Mais quand les armes de la démocratie ne suffisent plus, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste?
Il y a les hommes et les femmes qui comprennent et qui se mettent ensemble, qui commencent à parler les uns avec les autres, qui comprennent le rôle que joue le pouvoir et que ce que le pouvoir les amène à faire. Et qui commence, comme Baldwin le dit d'ailleurs, qui commence à reconnaître l'autre, quelle que soit sa couleur, quel que soit son portefeuille, quelle que soit sa nationalité, mais que l'autre, c'est vous.
Et de cela émergerait autre chose au niveau de la représentation politique, peut-être, c'est ça que vous dites ou
absolument, est-ce que ça, je ne pense pas qu'il y ait d'autres pistes de sortie.
Ferguson, Baltimore, vous avez choisi la confrontation par l'image avec notre époque. Hein. En quoi la parole de James Baldwin est encore une parole nécessaire? C'est aussi ça que vous interrogez à travers ce film documentaire « I am not your Negro », Raoul Peck. Comment expliquer que la prise de conscience à laquelle aspirait Baldwin ne soit pas advenue?
Parce que tout simplement, on a décimé le leadership du mouvement. Il faut pas oublier, encore une fois, ce film, c'est l'histoire de 3 assassinats. Imaginez-vous un Martin Luther King aujourd'hui, avec l'expérience qu'il avait, avec la crédibilité qu'il avait acquise, et imaginez-vous un Malcolm X aujourd'hui. La première chose que le système a fait, c'est d'éliminer ces hommes. Et on a tué une bonne partie de la génération des Black Panthers aussi. Tout ça, on l'oublie. On a décapité un mouvement et ensuite, on lui a construit des monuments. D'ailleurs, on a construit des monuments que au Martin Luther King, qui est le pasteur non-violent, et pas le Martin Luther King des 2 dernières années de sa vie. Il n'y a aucune statue pour Malcolm X. Donc ça dit quand même où on en est. C'est une espèce d'aspirine qu'on a mis sur le mouvement, qu'on a décapité. Et aujourd'hui, on a un mouvement qui essaie d'émerger, qui est le Black Lives Matter, et beaucoup d'autres d'ailleurs, mais qui sont un peu désarmés face à ce pouvoir massif et à cette incompréhension et aussi à ces relations exacerbées raciales. Alors que le vrai problème, encore une fois, n'est pas un problème de race, mais un problème de la grande inégalité qui reste dans ce pays qui est le plus riche du monde, où il y a des gens encore aujourd'hui qui vivent dans une extrême pauvreté et qui, naturellement, sont en majorité noirs.
Alors pourquoi le racisme? C'est une question qu'on se pose aux États-Unis et qu'on se pose aussi aujourd'hui, encore en 2017, en France. Quand le racisme s'expose, nous et les autres, c'est une exposition qui est présentée en ce moment et jusqu'au 8 janvier 2018 au Musée de l'Homme. Elle s'intéresse à la fabrique des préjugés et à la construction du racisme. Elle est aussi accompagnée d'un livre qui est publié à la Découverte. Nicolas Doutan s'y est rendu à la rencontre d'Evelyne Heyer, qui est co-commissaire de l'exposition. Écoutez, et on revient vers vous, Raoul Peck est notre invité jusqu'à 13h30.
Ah, toi, tu as le rythme dans la peau.
Hey, you've got natural rhythm.
Tu es discret et travailleur, toi.
You sure keep quiet and work hard.
Toi, c'est sûr, tu supportes mieux la chaleur.
You're obviously more used to the heat.
Evelyne Heyer, vous êtes professeure en anthropologie génétique et co-commissaire scientifique de l'exposition « Nous et les autres » présentée jusqu'au 8 janvier 2018 au Musée de l'Homme. Cette exposition s'intéresse à la fabrique des préjugés, à la construction du racisme. Pour commencer, comment ça se définit anthropologiquement le racisme?
Alors nous, on a une définition du racisme qu'on a dû mettre en place pour l'exposition. Pour nous, le racisme, c'est quand on a 3 éléments. On a d'une part une catégorisation, on met des gens dans des boîtes, on a une hiérarchie sur ces catégories, et finalement, on a ce qu'on appelle une essentialisation, c'est-à-dire le moment où on résume l'essence d'un individu à son appartenance à une catégorie. Comme t'es comme ça, t'es voleur, tu seras toujours voleur, tes enfants seront voleurs, etc.
Le mot race, a fortiori celui de racisme, a une grande fortune dans l'histoire, en philosophie, en littérature, dans la recherche scientifique bien sûr. Le mot a-t-il perdu pour vous toute validité scientifique, toute justification biologique et génétique passée?
Alors en génétique, on voit finalement qu'il y a trop peu de différences génétiques entre les populations pour que le terme vraiment de race tel qu'il était pensé au 19e et tel qu'il est appliqué aux animaux puisse s'appliquer à la diversité humaine. On voit d'une part qu'on se ressemble tous beaucoup génétiquement au niveau de l'espèce et qu'il y a très peu de différence entre les populations humaines. Autrement dit, on est juste un tout petit peu plus différent du fait qu'on vive à l'autre bout de la planète par rapport à quelqu'un du même village ou du village d'à côté. Et aussi, toute la génétique montre qu'on a une histoire, de population où les gens ont toujours beaucoup échangé entre les populations, ce qui est un peu antinomique de l'idée de race.
Est-ce que dans la recherche scientifique génétique, il y a un consensus autour de cette question ou est-ce qu'il y a encore débat ?
Alors en anthropologie génétique, il y a un consensus, sans compter que le terme race est quand même chargé d'histoire. Il est difficile de s'en servir sans penser à tout le passé. Par contre, visiblement, il est encore pas mal utilisé en médecine.
Et ce qu'il faut comprendre, on a l'impression que c'est ça en partie que l'exposition nous dit, qu'on ne naît pas raciste, qu'on le deviendrait plutôt. Ou est-ce qu'il y a au contraire à la fois une part, disons, naturelle et culturelle dans le racisme, dans le fait d'être raciste éventuellement ?
Alors, il y a des mécanismes de psychologie cognitive, c'est-à-dire des mécanismes de pensée qui peuvent déboucher sur le racisme, mais le fait d'être raciste, c'est effectivement une construction sociale. D'ailleurs, il y a plein d'époques où les sociétés ne sont pas du tout racistes.
Le but de cette exposition, on le voit bien, est clairement pédagogique. Est-ce qu'il n'est pas aussi d'une certaine manière politique, dans le sens où en rationalisant les idées, les mécanismes racistes, vous en démontrez précisément le caractère irrationnel ?
En fait, ce qu'on veut montrer, c'est comment ça marche. Donc on veut donner aux visiteurs une boîte à outils pour en faire un citoyen éclairé qui peut lui-même, après, comprendre les ressorts qui peuvent déboucher sur le racisme. Donc en ce sens-là, quelque part, elle est engagée. Par contre, elle n'est pas militante, elle n'est pas moralisatrice. C'est vraiment une mission d'éducation.
Le parcours place chaque spectateur face à ses propres préjugés. Quelle démonstration souhaitiez-vous faire ici en dédiabolisant, si l'on peut dire, les préjugés ?
L'idée, c'était d'expliquer que, quelque part, c'est naturel d'avoir des préjugés, mais ce qu'il y a d'important, c'est d'en avoir conscience pour savoir un peu vers quoi ils risquent de déboucher. Donc, c'est un peu de prendre conscience de ce qu'on est en tant qu'individu qui vit dans une société, de rappeler que tout individu a des identités multiples, qui peut choisir d'en mettre en avant certaines plutôt que d'autres, et que quand on a un préjugé, quelque part, on enferme quelqu'un dans une vision du monde, alors que lui, comme vous, a finalement une vision du monde multiple.
Toi, tu dois cuisiner épicé, non ?
You like your food spicy, right?
Et toi, tu viens d'où ?
Where are you from originally?
Toi, tu es riche, non ?
You look rich.
Oh, toi, arrête de faire ta victime.
Stop being such a victim.
Une réaction peut-être à Houlpec, pas facile d'exposer, pas facile d'être pédagogique hein, sur un sujet comme celui-ci. Vous avez choisi de filmer cette question noire, la question raciale, à travers l'œuvre, à travers les mots de James Baldwin. Là, justement, le Musée de l'Homme tente d'exposer à des fins vraiment très pédagogiques cette question et de montrer comment la fabrique des préjugés se met en place, dans quelle mesure le racisme est pour vous une construction ?
Bon, d'abord, le racisme, c'est quand même le résultat d'une grande ignorance. Ça, il faut le dire. D'ailleurs, en feuilletant ce livre, qui semble un livre formidable, ce livre touche nous et les autres, touche justement toutes les racines de ce qu'on appelle aujourd'hui banalement le racisme, et qui peut être beaucoup plus profond, et qui est lié aussi à toutes les sociétés, à différentes époques, qui sont souvent liées aussi à des problèmes à des moments de conquête. On a utilisé la racialisation au moment des grandes conquêtes des territoires d'Amérique. Et ensuite, on a utilisé la même chose pour la conquête des territoires du continent africain, où les mêmes Noirs qui suivaient Toussaint Louverture et qui avaient gagné contre les armées de Napoléon et qui étaient nés pour 60% d'entre eux en Afrique, ce sont ces mêmes Noirs qu'on va, près d'un siècle après, analyser pour savoir s'ils sont des êtres humains, pour pouvoir justifier la colonisation. Donc on voit bien que ce sont des concepts qui sont liés, encore une fois, toujours à la notion de pouvoir, à la notion de conquête, à la notion de richesse, etc.
Et c'est ce que dit la co-commissaire de l'exposition, Evelyne Heyer. Chaque racisme a son histoire, une histoire qui lui est propre, mais à chaque fois, le mécanisme est le même, hein, celui de la hiérarchisation, de l'essentialisation et de la domination à travers vos propos, Raoul Peck. Une question d'Antoine Mercier.
Moi, je sais pas, j'ai envie de vous demander, est-ce que dans la notion de pouvoir, il y a de toute façon un problème avec la deuxième notion que vous mettez en avant, d'altérité ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'opposerait par définition ?
Le pouvoir, il est aussi basé sur une vision du monde. Est-ce que c'est le pouvoir pour gérer la cité, comme on l'a connu en Grèce ou à Rome à une certaine époque?
Oui, mais enfin, les Grecs aussi disaient qu'il y avait les barbares, qu'il y avait les autres.
Absolument.
C'est même eux qui ont inventé cette notion d'extériorité.
Il s'agit pas de dire que c'était mieux, mais ils le géraient d'une certaine manière. Mais plus tard, c'est plus compliqué quand le pouvoir est extrêmement. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de base qui est capitaliste. Le capitalisme est basé sur le profit. Et rien que cet élément a des conséquences incroyables sur tout le reste, y compris sur nos cultures, y compris sur notre manière de communiquer avec l'autre.
Vous pouvez préciser peut-être, ou concrétiser ?
Oui, par exemple, si on prend le racisme tel qu'il était pratiqué aux États-Unis sur l'esclavage, alors que l'esclavage a fourni la chair, la matière pour l'accumulation du capital aux États-Unis, on voit la relation immédiate. De la même manière, c'est l'esclavage qui a permis l'accumulation de richesses en Europe et qui a permis l'émergence de la révolution industrielle. Donc ce sont des liens, je dirais presque macroéconomiques, qui produisent leur culture qui va avec et qui peut être aussi une culture raciale ou de racialisation, comme elle a dit tout à l'heure, et qui a des conséquences extrêmement profondes.
Est-ce que c'est un point de vue marxiste? Les superstructures, finalement, idéologiques, vont dépendre de l'exploitation concrète de la situation, du rapport de lutte.
Oui, puisque j'ai fait un film sur le jeune Marx.
C'est
Karl
pour ça
Marx,
que
justement.
Je vous pose la question.
Absolument, puisque Karl Marx, ce qu'il a fait et qui est déterminant, c'est d'analyser justement cette société capitaliste, qui est une société qui est historiquement déterminée, qui commence à une époque bien déterminée et qui a une forme de production qui est bien déterminé, c'est-à-dire il inclut le salariat, il inclut la propriété des objets des moyens de production dans une petite classe qui se reproduit. Donc quand on parle aujourd'hui de Macron, de la droite, de la banque Rothschild, etc., mais c'est une structure de pouvoir également qui est basée sur ce capital, qui se reproduit, et qui se reproduit à l'aveugle. Ils s'en foutent s'il faut fermer 4 ou 5 usines dans l'est de la France, s'ils peuvent gagner un point à la bourse. Donc c'est quand on est face à cet aveuglement, qui est parfois même pas identifiable chez un individu précis, il y a plus de
c'est un champ.
C'est un champ, c'est le système en général. Il y a très peu de capitaliste qu'on peut identifier et qui soit le grand méchant loup, il y a comme ça une dissémination de ce pouvoir à travers la bourse, à travers le capital financier aujourd'hui qui est totalement aveugle et qu'on ne sait pas, puisque ce sont les algorithmes et leurs ordinateurs qui spéculent. Et donc, ça a des conséquences dans toute société.
Et c'est cette critique justement du libéralisme aujourd'hui, de l'ultralibéralisme et du monde capitaliste qui fait le lien entre l'écrivain et la pensée de l'écrivain James Baldwin, pour vous, et le jeune Karl Marx que vous avez également film présenté à Berlin. C'était intéressant, la concomitance de ces deux films, I'm Not Your Negro et le jeune Karl Marx présenté à la Berlinale cette année.
Je crains de pouvoir dire que le lien c'est moi, malheureusement.
Il n'y en a pas d'autre. C'est la fusion des deux pensées que vous avez réalisées en vous.
Quelque part, puisque c'est un peu les deux morceaux de mon cerveau. J'ai eu la chance de rencontrer l'œuvre de Baldwin très tôt, entre le bac et l'université, et j'ai rencontré l'œuvre de Marx très tôt aussi, au début de mes études à l'université de Berlin. Et à l'époque, pour pouvoir discuter avec les autres, Berlin qui était une ville très politisée, il fallait connaître Marx. Et donc j'ai étudié Marx dans un cadre académique, et donc qui m'a permis à venir à des notions très fondamentales, au-delà de tout ce qui a été fait après sur son nom et en son nom dans les pays de l'Est, qui sont vraiment de ce point de vue criminels. Mais le Marx que j'ai étudié, c'était le Marx de ce que l'eurocommuniste a essayé de faire, à analyser les sociétés, à analyser les structures des sociétés et les résistances, etc., etc.
Et comment ces deux parties du cerveau sont-elles connectées, de votre cerveau ?
Mais parce que, quelque part, Baldwin aussi a une vision marxisante, je dirais, de sa société. Il a compris justement que les fondamentaux, c'était pas un problème de race, que c'était l'inégalité, par exemple, aux États-Unis. Baldwin, c'est quelqu'un qui a aussi voyagé. Il a quitté les États-Unis à l'âge de 18 ans, je crois, la première fois, et qui a tout de suite compris que le monde était beaucoup plus complexe et qu'il y avait quelque chose qui passait par toutes ces différentes nations qui était la notion, encore une fois, de classe et de pouvoir. Et dans ce sens, il n'y avait pour moi aucune contradiction entre les deux et les deux m'ont nourri toute mon existence.
Alors, de la pensée de James Baldwin à celle de Raoul Peck, aujourd'hui notre invité jusqu'à 13h30. Pour l'heure, il est 13h15 sur France Culture.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Dans votre film I Am Not Your Negro, qui sera diffusé ce soir sur Arte, Raoul Peck, et en salle le 10 mai, c'est Bobby Kennedy, c'est ça, qui envisage l'arrivée d'un président noir à la Maison Blanche dans 40 ans, ce qui agace prodigieusement l'écrivain James Baldwin. Pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre 40 ans? Il n'en voit pas du tout la logique. Reste que ce moment est arrivé. Barack Obama est devenu président, 2 mandats. Pour la romancière, je voulais vous faire entendre sa voix, Toni Morrison, l'auteur de Beloved, grande dame de la littérature américaine et prix Nobel en 93, interrogée dans la grande librairie et qui a donné aussi un long entretien dans la revue America. C'est le moment où elle a pu se sentir enfin américaine.
Je vais vous dire ce que signifie pour moi être américaine. C'était il n'y a pas très longtemps, à l'investiture de Barack Obama. Je ne sais pas combien de millions de personnes étaient là. Il y avait des drapeaux et des militaires. Et j'ai toujours pensé que notre drapeau était laid, le drapeau américain. Je l'ai toujours trouvé de mauvais goût, trop décoré, avec ses étoiles et ses rayures, et l'orchestre militaire. Mais ce jour-là, le drapeau était beau. Et la musique que jouaient les Marines me semblait superbe. Et j'ai senti que j'étais à ma place. Je me suis sentie vraiment américaine à ce moment-là.
At that moment, because of him.
Grâce à lui et à elle, vous savez, grâce à cet homme noir élégant. C'est fini maintenant. Je veux dire, c'est un souvenir, mais c'est la seule fois où j'ai ressenti ça. American thing.
Raoul Peck.
Oui, c'est très touchant et on a tous vécu ce moment, d'ailleurs blanc ou noir, qui était un grand moment de réconciliation, un grand moment d'amour et de rêve. Mais elle dit aussi, ce moment est passé. Et c'est ça la réalité. Ce moment,
réalité,
pourquoi il a été fort, c'est parce que à ce moment-là, les histoires différentes de l'Amérique se sont retrouvées chez un seul homme, chez un seul moment. Que la nation entière, presque en tout cas, a vécu de la même manière. Et ce sont ces histoires qu'on n'arrive pas à réconcilier, parce qu'on a, des histoires différentes, des histoires parallèles, alors qu'il n'y a qu'une seule histoire. Quand on essaie de dire que la colonisation a été bénéfique ou non, que l'esclavage a eu des effets même bénéfiques ou non, c'est une manière déjà au départ qui sépare les gens. Il s'agit de simplement de regarder l'histoire en face. Chacun a eu son rôle à jouer dans cette histoire. Il ne s'agit ni de repentance, ni de réparation. Ça, c'est une autre question.
Mais
il s'agit de la regarder en face.
Vous regardez en face
des récits,
oui, mais comme
bien
si
entendu.
Elle était unique, alors qu'on sait très bien que, comme on dit, le narratif, comme on dit en anglais,
voilà, et qui
est
domine,
aussi très important.
Et absolument. Et qui domine le narratif? Qui paye pour le narratif? Qui décide quel est le narratif? Et tant que...
Et aujourd'hui, ce sont toujours les mêmes.
Et ce sont toujours les mêmes. Si on prend le cinéma, cette domination, elle est extrême. Vous pouvez aller dans l'ensemble des studios américains, comme j'ai eu à le faire dernièrement. En majorité, vous avez des jeunes blancs, en général, entre 30 et 50 ans.
Mais il est là le grand échec de Barack Obama, Raoul Peck, c'est, à part le discours de Philadelphie sur ces questions où il a eu des mots très forts, de ne pas avoir réussi à reprendre la plume et changer le sens de ce récit national.
Mais là encore, je pense que c'est mettre trop de poids sur le dos d'un seul homme. Et je reviendrai à Baldwin, à cette question, quand on lui demandait, mais qu'est-ce que ce sera pour vous, ce premier président noir aux États-Unis dans 40 ans éventuellement. Et sa réponse il y a 40 ans, c'était de dire que, mais vous savez, pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir de quel pays sera-t-il le président. Parce que c'est ça la question fondamentale.
Ça voulait dire quoi, cette observation ?
Ça veut dire que ça dépend de ce que le pays sera, de quelle identité, de quelle conscience ce pays sera à ce moment-là. Parce que le pays est fait d'hommes et de femmes. Il n'est pas fait de ses dirigeants. Un dirigeant est extrait de cet ensemble d'hommes et de femmes. Et un dirigeant seul, surtout aujourd'hui, dans la complexité de la politique et dans ce qu'on disait aussi tout à l'heure, dans les faiblesses du système démocratique lui-même, c'est devenu de plus en plus difficile pour un homme ou même un parti de gérer l'ensemble d'un pays, où les crevasses entre les différentes catégories d'habitants est vaste. Et c'est la réconciliation est compliquée, le discours est compliqué parce que nous ne sommes pas d'accord sur le même diagnostic de la crise. Et plus ça va aller, malheureusement, il y a de moins en moins d'espace même de discussion. Nous le voyons dans la presse. Une émission comme la vôtre, où j'ai le temps de parler, est totalement rare dans ce qu'on vit aujourd'hui dans les médias. Et c'est pareil pour les politiques. Ils sont obligés de faire des raccourcis énormes dans chaque discussion. Et donc, il y a des réponses toutes faites, parce qu'on n'a pas le temps de montrer comment la réponse est complexe. Il n'y a pas de réponse facile, il n'y a pas de oui ou de non. C'est vraiment un contexte général où on peut dire des choses contradictoires également. On revient à la dialectique marxiste, c'est-à-dire quelque chose et son opposition peuvent être vrais. Maintenant, c'est à nous, citoyens, de trouver comment résoudre ces deux réalités. La réalité de quelqu'un qui vote Marine Le Pen et la réalité de quelqu'un qui vote Mélenchon ou Besancenot.
Comment on fait ?
Ben, on discute. On commence par discuter. On commence par s'asseoir autour d'une table.
De quel pays Obama ou le premier président noir serait ou sera le président ? Voilà ce que vous évoquiez 30 ans après la mort de James Baldwin en 87. C'est un écrivain qui n'est pas oublié. Beaucoup de militants aujourd'hui inscrivent leur action dans le sillon de l'auteur de La prochaine fois, Le Feu, un ouvrage paru en 63. Et vous nous disiez que c'est un de ses livres, si ce n'est le livre qui a le plus compté pour vous, Raoul Peck. Parmi les héritiers revendiqués, il y a le mouvement Black Lives Matter, qui est né en 2013 à la suite de l'acquittement du meurtrier de Trayvon Martin. Il y a aussi des auteurs comme Ta-Nehisi Coates, celui de La colère noire, qui ont repris cette pensée baldwinienne. Une pensée qui est réactivée et une action aussi après 8 ans de présidence Obama. C'est ça l'état du pays.
Oui, et j'ai eu l'occasion, puisque j'ai beaucoup suivi la sortie du film aux États-Unis, où le public dans la salle était souvent un public très mélangé. Il y avait des blancs, des noirs, des latinos, un peu de tout, des asiatiques. Il y avait des très jeunes, il y avait des gens plus âgés. Et en fait, très rapidement, la discussion se faisait dans la salle. Et on se rendait compte quelque part que tout ce monde-là avait cessé de se parler. Et que chacun était ancré dans son monde à lui, dans sa bulle à lui. Et que il y avait très peu de lieux de discussion, d'occasions. De discussion.
Ce qui peut vous permettre d'être aujourd'hui comme Baldwin l'était à l'époque quand il dit je ne suis pas pessimiste puisque je suis vivant. Ces discussions qui ont repris et que votre film a notamment permis, rouvertes dans les salles de cinéma et en dehors, c'est la preuve qu'il y a encore quand même quelque chose qui peut naître de cette situation.
Oui, et je vais peut-être plus loin que ce que Baldwin a dit pour ma part, c'est de dire je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix et je n'ai pas le temps de penser sur le fait que je sois optimiste ou pessimiste. Si je choisis l'un ou l'autre, ça veut dire quoi ? Je ne fais plus rien et je laisse faire. Non, il s'agit de, comme dit Baldwin, de confronter la réalité en face. Parce que ce n'est qu'ainsi qu'on pourra trouver des réponses et même comprendre ce qui se passe. Et c'est ça, je pense, qu'il faut retenir, c'est le fait qu'il est temps pour nous tous de nous mettre en face l'un de l'autre et de commencer à parler et de cesser d'ignorer notre propre histoire, qui est une histoire commune.
Vous dites il faut trouver des occasions de discuter et pas il faut discuter. Ça veut dire que les occasions de discuter sont en train de se rétrécir.
Absolument.
C'est-à-dire c'est pas uniquement la discussion qui disparaît, c'est aussi la possibilité de la discussion.
Absolument. On est dans une spirale qui nous fait croire que nous sommes de plus en plus informés et même mieux, alors que c'est le contraire. C'est le contraire. Nous perdons des terrains de discussion. Nous sommes isolés les uns les autres. Chacun a son téléphone portable, à sa palette, à son ordinateur. Nous éloignons les uns des autres, alors qu'on nous fait croire que les moyens de communication nous permettent d'être proches les uns des autres. Non, il y a de moins en moins d'échanges réels entre les uns et les autres. Et c'est ça qui est terrible, cette accélération. Encore une fois, je vais pas revenir à Marx, mais Marx en a parlé, où tout s'accélère et il n'y a pas de conducteur dans ce camion. Et donc, on va vers une sorte de course folle sans savoir où on va. Et on est tous suffisamment âgés autour de cette table pour savoir que ce que voulait dire de s'asseoir quelque part et de lire un livre. Et quel espace ce livre provoquait autour de vous? Quel moment de réflexion? Aujourd'hui, quand on a trois écrans ouverts devant soi, on peut me dire « oui, c'est une nouvelle manière de faire », mais certes, mais le cerveau, il reste le même, même s'il apprend à fonctionner plus rapidement, mais cet espace de réflexion manque. Et c'est ce qu'on voit partout dans les écoles, les universités, etc. Et donc, voilà, il y a une raison historique et une raison économique pour que ce soit le cas. Quand on produit, moi j'ai un téléphone là, que je n'avais pas éteint tout à l'heure en effet, mais quand je considère, c'est vrai qu'il accélère beaucoup de choses pour moi, mais je me rends compte que j'utilise à peine 15% de sa capacité. Donc à quoi il me sert finalement? Et on accepte comme ça, chaque révolution électronique et numérique, on l'avale, et c'est une accélération aussi économique de la marchandise. La marchandise décide de ce que nous désirons. La marchandise, et Marx a écrit dessus, le capital crée des besoins, parce qu'il faut qu'il continue son expansion. Et on ne questionne plus ses besoins. Et la réalité historique aujourd'hui, c'est que cette accélération crée des problèmes écologiques énormes. Parce que c'est ça aussi, c'est accompagné de tout ça. Tout ça est lié. Et donc, quand on perd la capacité de pouvoir discuter de manière complexe de tout ça, c'est plus dur de trouver des réponses.
Est-ce que vous avez vu aussi dans cette campagne électorale française, même si vous n'étiez pas ici directement tout le temps, je rappelle que vous présidez aussi l'école de cinéma La Fémis, est-ce que vous avez senti quand même autre chose que de la colère, autre chose que de la peur, du repli sur soi, de la division? Est-ce que vous avez senti de l'espoir, une envie de changement dans cette campagne et des candidatures qui pour vous auraient incarné ça?
Oui, certes, il y a bien sûr beaucoup d'espoir. Les gens, quand même, les gens ont été votés malgré un taux d'abstention, mais les gens vont voter. Les gens croient qu'ils peuvent changer. Ils ont envie que ça change. Sur ça, je pense qu'il y a aucun doute. Et il y a aussi beaucoup d'initiatives locales, comme le disait l'invité tout à l'heure, au niveau des communautés, au niveau des villes, des villages. Ceux qui dirigent un maire, par exemple, les responsabilités d'un maire aujourd'hui, et ça je le vois pas seulement ici, mais je le vois en Haïti, je le vois au Congo, ces hommes et ces femmes qui ont une responsabilité énorme sur leur dos, sans avoir les moyens d'y répondre, etc. Il y a, heureusement, d'autres liens dans la société qui font que cette société continue à exister. Les volontaires, ceux qui s'occupent des migrants, ceux qui s'occupent des restos du cœur, etc. C'est ça la vraie force.
C'est la relocalisation qui permet peut-être la discussion possible, qui rend possible.
Et qui permet la survie jusqu'à présent, mais jusqu'à quand?
Merci beaucoup Raoul Peck. Merci d'avoir été notre invité depuis midi pour cette longue émission et belle grande table spéciale avec vous Raoul Peck. Raoul Peck, je rappelle que votre film I Am Not Your Negro sera diffusé ce soir sur Arte à 20h50 et qu'il sortira en salle le 10 mai. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de la grande table, à Milena Hellig, aux manettes aujourd'hui avec Clément Daté, émission conçue et préparée par Henri Leblanc avec l'aide de Claire Maillot, Clémence Marie, Nicolas Dutant, Copelia Ménardi et Andrea Kinapi. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission à la page de la Grande Table sur franceculture.fr, et on mettra aussi en lien une série documentaire sur James Baldwin à partir de son livre La Prochaine Fois le Feu, qui avait été diffusé en novembre dernier sur l'antenne de France Culture. On va mettre le lien sur la page de la Grande Table. Cette série s'appelait Black America. Merci Antoine Mercier, à demain.